qu'on fait ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.
Bienvenue à l'écoute de À votre avis sur VOA Afrique. Nathalie Barge avec vous pour présenter des commentaires de nos auditeurs. Le blocage politique persiste en Côte d'Ivoire où le bilan des violences post-électorales s'est alourdi malgré les appels au dialogue de la communauté internationale. Alors que le pays attendait la validation de la réélection du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat avec un score écrasant, les principaux dirigeants étaient bloqués chez eux par les forces de l'ordre. Les leaders de l'opposition sont accusés de complot pour avoir proclamé un conseil national de transition. Que pensez-vous de cette situation? Voyez-vous un terrain d'entente possible entre opposition et pouvoir en Côte d'Ivoire?
Oui, Moussa Florentin Naba.
Oui, bonsoir. Pour le moment, comme le président a gagné les élections de Pancré, bon, il doit organiser une dialogue entre eux pour la paix en Côte d'Ivoire, quoi. Sinon, bon. Ce qui s'est arrivé en 2011, je crois que c'est bon. C'est le même cas d'Ivoire venu cette année aussi, pourtant ça aussi, ce n'est pas bon. L'opposition doit chercher un terrain d'entente avec le président pour l'amour du pays, quoi. Par exemple, il dit que l'opposition n'a pas joué son rôle, c'est pas que bon. L'opposition avait dit que bon, Ouattara serait candidat et bon, ils vont pas partir aux élections. Et puis finalement aussi, je vois que bon, j'ai entendu qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas fait partie dans ces élections. Et puis ils ont décidé qu'ils vont faire former une tradition civile. Je vois qu'ils n'ont pas joué leur rôle, quoi. Bon, moi, je vois que c'est pas normal pour, parce que l'opposition ne peut pas décider qu'ils vont organiser une transition comme ça. Et puis bon, et je vois que Henri Konevedi, il doit quitter dans là où il est, parce qu'à l'air, là, il ne pourrait plus devenir président, mais il est forcé de mettre. Je pense que le monsieur là doit laisser la place, quoi. Parce qu'il n'est plus la place pour gérer ce pays-là. Je pense que bon, c'est parce que le problème là, même, je vois que tous les problèmes là, ils viennent de Arab Henri Bedi parce qu'il ne joue pas son rôle. Bon, parce que c'est un vieux que moi, je le respecte, mais en ce moment, je vois que tous ces propos qu'il vient de. Je viens d'entendre, je vois que c'est pas le cas, quoi.
Merci beaucoup Moussa Florentin Naba. Je rappelle que vous êtes à Ouagadougou. Un grand merci pour votre participation. À très bientôt.
Ok, merci.
Allô, vous m'entendez?
Allô.
On vous écoute.
Il faut se le dire, nous regrettons un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce qu'avant tout, tous ces genres de violences qui viennent après des élections sont des événements en tout cas qui ne sont pas bien menés en Afrique. Et malheureusement, c'est devenu un peu général. Donc, en ce qui concerne les élections en Côte d'Ivoire, je ne suis pas du tout pessimiste, mais je pense que le processus d'une certaine négociation ou d'une certaine accalmie est déjà raté à partir du moment où les élections n'ont pas été organisées dans de bonnes conditions. Alassane Ouattara, il n'est un secret pour personne qu'il veut briguer un troisième mandat où il l'a déjà fait. Et que les Ivoiriens pensent que ça va à l'encontre de ce qu'a prévu la Constitution. Donc, c'est une sorte de violation de la Constitution. Et au début du processus des élections, il y a beaucoup d'opposants. Donc, les dossiers de candidature ont été rejetés. Donc, c'est une façon de les écarter. Ça, je pense que c'est une exclusion par rapport à la cause. Donc, M. Alassane Ouattara, il a balayé la voie. C'est de façon préméditée qu'il a organisé cette élection et s'est taillé sur mesure. Du coup, les opposants, je ne pense pas s'ils peuvent revenir pour qu'on puisse négocier. À partir du moment où la frustration les a amenés à prendre une décision de ne même pas participer à ces élections-là. Et le deuxième aspect, une probable négociation ne peut pas avoir lieu à partir du moment où M. Alassane Ouattara, ou j'allais dire les autorités actuelles, ont déjà mis un dispositif sécuritaire en encerclant les domiciles des opposants. Je pense qu'ils ne donnent pas à une probable négociation la chance de se réaliser.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce projet de régime de transition de la part de l'opposition?
Il faut reconnaître que la décision de l'opposition, elle a été déjà prise, mais malheureusement, ce n'est pas une bonne option. ils auraient dû participer à ces élections-là. Et après, ils peuvent faire appel peut-être à un gouvernement d'union ou à un gouvernement, en tout cas, de large ouverture qui va permettre à l'opposition et à l'autorité de participer à la gestion des affaires de l'État, donc à la gouvernance. L'opposition, en faisant cela, c'est comme si elle essaie d'exprimer une certaine non-reconnaissance de la légitimité de M. Alassane Ouattara. Il aurait dû participer à ces élections pour éviter tout cela.
Un grand merci, Tani Moun Lawali. Je rappelle que vous êtes à Niamey, au Niger. On vous dit à très bientôt.
Ok, merci beaucoup, madame. Et je remercie les personnels de Voix Afrique parce qu'ils me donnent l'occasion de m'exprimer.
Est-ce que c'est Yakala Tienou?
Oui, Perla.
Yakala Tienou, oui. On vous écoute.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'opposition. Parce que ici en Afrique, ce problème de troisième mandat est sur le point de devenir un sérieux problème. À chaque fois qu'il y a des élections, c'est les présidents qui ont fait. Comment toi, tu as fait 10 ans au pouvoir? C'est que tu n'as pas fait dans les 10 ans-là. Comment tu vas pouvoir faire ça dans les 5 prochaines années? À chaque fois seulement qu'il y a des élections, ce sont nos vieux qui refusent de laisser le pouvoir aux jeunes. Ce sont eux qui s'imitent pour pouvoir être toujours au pouvoir alors qu'ils n'ont rien à foutre si ce n'est pas manger seulement le patrimoine du pays. C'est pour cela que je dis que je suis d'accord avec l'opposition, surtout en Côte d'Ivoire. C'est Alassane là. Si on comprend bien sa politique, pour moi je dirais qu'il veut la même chose qui s'est passée il y a plus de 10 ans en Côte d'Ivoire, une guerre civile. Et cela n'arrange pas du tout les Ivoiriens. Donc pour moi, c'est aux Ivoiriens toujours de se comprendre, de faire fonctionner toujours pour mettre fin à ce qu'est Alassane V.
L'opposition a décidé de former un régime de transition. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Est-ce que selon vous, cela peut avoir une issue heureuse?
Oui. Moi, je suis content de cela. Les Ivoiriens auront encore le temps de préparer autre élection différente de celle-là. Ouais.
Alors, étant malien, est-ce que vous vous sentez touché personnellement par rapport à ce qui s'est passé chez vous, finalement?
Oui, je me sens touché parce que, avant d'être malien, d'abord, je suis un Africain. Donc, nous sommes Africains et c'est à nous de nous donner la main pour avancer main dans la main.
Comment éviter les tensions entre les diverses communautés?
Oui, moi, je dirais, je fais toujours appel aux communautés internationales telles que l'Union africaine et la CEDEAO. Donc, ils n'ont qu'à parler avec Alassane. Il n'a qu'à se reposer. Ouais, parce que donc, c'est à la CEDEAO et à l'Union africaine de lui faire comprendre ça. Et c'est tout. Merci.
Un grand merci, Yakala Tienou. Je rappelle que vous êtes à Bamako.
Oui, vive la Voix Afrique.
Merci beaucoup. Est-ce que c'est Sarifou Diallo? C'est la Voix de l'Amérique.
Oui.
C'est bien Sarifou Diallo en Côte d'Ivoire.
Oui, c'est Sarifou Diallo.
Alors, vous êtes donc ivoirien et nous traitons le sujet de la Côte d'Ivoire, hein, les élections en Côte d'Ivoire, la crise. Vous dites que les Ivoiriens doivent aller au dialogue. Mais dites-nous, Sarifou, de quelle manière aller au dialogue?
La manière est déjà là. Si le président de Sénégal a proclamé les résultats officiellement qu'il avait élu là, donc il doit appeler l'opposition sur la table pour dialoguer officiellement pour amener la paix sur le pays. C'est la seule manière d'amener la paix dans le pays là.
Alors qu'est-ce que vous pensez de l'initiative des leaders de l'opposition qui veulent créer un régime de transition? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est impossible parce qu'ils ont déposé les candidatures pour aller aux élections. Pourquoi ils n'ont pas retiré les candidatures pour ne pas aller dans les élections? Ils ont voté, chacun d'eux, ils ont déjà participé, ils ont vu ce qu'ils doivent voir. Maintenant, le président du Sénat fait son travail. Lui qui est déjà, il a perdu, il doit reconnaître qu'il a perdu dans les élections. Lui qui est élu, donc il doit maintenir son mandat.
Comment vivez-vous la situation sur place, Sarifou? Est-ce que la situation est tendue?
La situation est tendue parce que le président Ali Konan Bédié est toujours dans son domicile. Ils ont commencé à décrire pour établir l'élection civile. Ce n'est pas normal.
Selon vous, les dirigeants, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Comment devraient-ils agir pour éviter qu'il y ait encore des violences?
Il doit écouter le président Alassane Ouattara selon les propositions qu'il va mener parce que c'est, après tout, c'est la population qui l'a voté. Donc, il doit les appeler pour s'asseoir tranquillement pour discuter comment maintenir la paix dans le pays là, parce que la violence n'était rien arrangé, quoi. Monsieur Laurent Gbagbo a bien parlé dans ces derniers temps. Vous-même, vous avez suivi sur TV5, il a bien dit que nous, la violence n'était rien arrangé. Donc, allons-y, si la négociation négociée, violence n'est pas rien portée. Donc, Côte d'Ivoire est mal connu, comment 2011-2010, là, donc tout le monde a vu comment le pays était traversé.
Merci beaucoup, Sarifou Diallo. Vous êtes donc en Côte d'Ivoire. On vous souhaite bon courage et on vous dit à très bientôt pour continuer de participer à nos émissions.
Ok, merci madame.
C'est bien Zakaria à Abengourou, en Côte d'Ivoire.
Tout à fait, hein. Tout à fait. Je ne suis pas un Ivoirien, mais je parle en tant qu'un citoyen de la Côte d'Ivoire. Parce que je n'ai pas le droit à l'accès au vote, mais nous avons tous le droit à dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire réellement. Depuis en 1990, j'ai vu, on a constaté que c'est la même situation qui se déroule en Côte d'Ivoire, notamment particulièrement en Afrique. Vous voyez qu'il y a toujours les deux groupes qui s'associent pour combattre contre le parti de pouvoir. On a constaté qu'en 2010, il y a eu cette même situation. Et cette année, 2020, il y a eu cette même situation. Donc, pour relever ce défi, il va falloir que la communauté internationale joue un grand rôle sur ce problème. Surtout nous qui sommes à l'aide, il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas dit sur l'antenne. Alassane Ouattara est élu. Il va falloir qu'il tende la main vers l'opposition et que toutes les parties de la Côte d'Ivoire se réconcilient.
Alors, Zakaria, qu'est-ce que vous pensez des leaders de l'opposition qui ont décidé de former un régime de transition?
Quand ils ont déposé les dossiers, ils ont accepté, ils ont accordé qu'il y a une élection. Et il y a eu les élections, quand ils ont lancé, nous-mêmes, on se disait qu'on devait avoir deux partis qui votant, comme les votants du parti de KKB, comme Alassane Ouattara. On a eu que les deux partis ont voté. Mais il va falloir que les quatre partis politiques s'associent pour trouver une terre d'entente et jouent un grand rôle à ce côté.
Vous pouvez nous rappeler dans quelle localité vous êtes, dans l'est de la Côte d'Ivoire?
À Bengourou.
Quelle est l'ambiance exactement?
Depuis le jour de vote, la situation était un peu dangereuse, on a eu peur. La jeunesse n'était pas contente, il y a eu des barricades partout, il y avait des routes qui ont été fermées, ils ont coupé les bois, bon, dégazé les routes. Toutes les activités commencent à bouger, mais il y a des autres côtés aussi que bon, la situation, on ne sait pas comment ça va se passer.
Est-ce qu'il y a des personnalités dans votre localité qui appellent un petit peu au calme?
Oui, il y a les chefs du village, les chefferies, surtout les cantons, qui appellent la population à calmer, à rester toujours calme pour que les politiciens trouvent la solution pour la Côte d'Ivoire. Voilà un truc. Puis, à certaines localités, ils ont dégagé les routes, les situations. En tout cas, ça commence à aller. Je pense que nous aussi, nous pouvons jouer un grand rôle pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour que nous, les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'on puisse vivre avec les Ivoiriens. Si un Togolais, depuis que la situation a commencé, nous qui sommes des leaders, des Togolais qui sont dans les localités, on a essayé de transmettre les messages à d'autres personnalités Togolais qui sont dans les différentes localités pour pouvoir aider les Ivoiriens. Ce que nous souhaitons qu'il y ait une réconciliation véritable en Côte d'Ivoire pour que nous puissions vivre en paix en Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous souhaitons.
Un grand merci, ouais. Zakaria, merci. Pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes à Bengourou, donc dans l'est de la Côte d'Ivoire, et que vous êtes togolais. Merci beaucoup. Continuez de participer à nos émissions.
Merci, au revoir. Allô?
Oui, est-ce que je parle bien à Eric Goz, à Yamoussoukro? On a bien vu votre commentaire sur le Facebook de VOA Afrique concernant la crise dans votre pays. Comment trouver un terrain d'entente entre les deux camps? On vous écoute, Eric.
Comme je disais, voilà, dans mon commentaire, j'ai voulu que les deux parties s'affairent pour discuter. Ces élections qui ont été vraiment pas possibles, qui sont déroulées dans de mauvaises conditions, avec des barricades partout dans les villes de l'intérieur du pays. Ouais, il faut que la France et la communauté internationale jouent leur rôle. Il faut qu'ils appellent les deux parties à la coupe pour communiquer, pour dialoguer. Ce n'est pas joli à voir. Le président sortant vraiment fait sous d'oreille. Il faut que les gens se mettent ensemble pour discuter. L'opposition pèse en Côte d'Ivoire. Le FPI, le PDCI réunis. Donc vraiment, il faut que la communauté internationale joue son rôle. Il faut que les parties en fassent assez pour discuter. Il faut qu'ils se disent franchement, il est temps de discuter. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, tant que l'on peut vivre comme ça. On le dit, tu te dis, la souveraineté, tu es déporté, dédié, c'est l'intérêt du pays. Mais est-ce que ces partisans seront contents?
On assassine les maisons, on incendie les maisons à tout le monde. Moi aussi, à Yamsoguro. Les barricadés un peu partout. Je ne sais pas si vous faites parvenir les vidéos, mais les gens ne sont pas dans la joie. La mère est accompagnée des miliciens pour maltraiter la population. Dans quel pays on se trouve? Ce n'est pas le pays du feu guanien. Hein. Il faut que la communauté internationale agisse.
Mais qu'est-ce qu'elle peut faire, la communauté internationale?
Bon, c'est très simple. Le président veut dire quoi? Il a appelé le président de l'ONU pour intervenir. Il me fait comprendre. Il a appelé de l'ONU pour intervenir. Pourquoi elle a appelé le président de l'ONU immédiatement pour intervenir? Pour appeler les représentants? C'est pour qu'il puisse voir de près ce qui est là. Et le président de l'ONU, il peut convoquer tous et puis ils vont dialoguer pour s'entendre. Mais là, ils vont ressortir dans un consensus. On peut éviter ce qu'on a fait actuellement. Il y a bien des sangs, des gens qui meurent, des cortèges, des ministres attaqués. Ça, c'est dans quel pays on est? Il y a un braquage.
Éric Goz, vous êtes à Yamoussoukro, il y a déjà eu des violences là-bas. Tout de même, au niveau local, est-ce qu'il y a des dirigeants qui appellent au calme pour éviter justement encore plus cette violence?
Moi, je suis descendu le jugement. Elle a été barricadée aussi par les jeunes. Lui, il y a les familles ici. Il y a les familles qui ont essayé depuis le temps de feu qui sont ici, avec tout cela. Donc, je ne pense pas qu'ils vont vouloir appeler à la RMD à la violence. Les gens sont dans leur coin. Vous comprenez? Ils ne font que faire barricade contre les milices qui attaquent. Ah, vous venez ventrer, vous incendiez les maisons. Les corps habillés dans des pays pas possibles avec des machins, des armes à la main, dans les véhicules. On ne peut pas concevoir ça dans un état de droit. Il y a plus d'intellectuels encore, vous voir que tout cela puisse se passer.
Éric Goz, merci beaucoup pour votre témoignage. On espère vraiment que tout ça va vraiment se calmer. Je rappelle que vous êtes à Yamoussoukro, comme on dit. Prenez bien soin de vous et on espère vous entendre encore une fois très bientôt dans nos émissions. À bientôt, Éric.
Portez-vous bien, VOA.
À votre avis sur VOA Afrique.
Est-ce que c'est bien Abdourahmane Sow? Comment allez-vous?
Oui, bonjour. Oui, ça va.
Abdourahmane, vous êtes bien à Brazzaville, c'est ça?
Oui.
Voilà, alors on vous appelle pour faire le point sur la crise en Côte d'Ivoire. Dites-nous, s'il vous plaît, Abdourahmane, de quel œil voit-on cette crise, justement, à partir de Brazzaville? On vous écoute.
Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Parce qu'aujourd'hui, cette crise est provoquée par Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, c'est lui qui a installé cette crise dans ce pays. Parce que tout le monde sait que si cet problème, c'est le troisième mandat qui a amené tous ces problèmes dans ce pays. S'il n'y avait pas de troisième mandat, je pense bien qu'il n'y aurait pas de problème. Mais aujourd'hui, tous ces problèmes sont créés par lui aujourd'hui.
Alors, quelle solution vous voyez donc à cette crise, notamment entre les deux camps?
Oui, les deux camps devraient s'asseoir autour de table pour parler des problèmes du pays. Parce que c'est la même chose qui était passée en 2010 et 2011, lorsque Babou a refusé de quitter le pouvoir. Tout le monde avait dit. Les gens qui étaient, les autres qui étaient armés et le gouvernement qui a refusé de quitter.
Très bien, Jacques Bamogo.
Oui.
Comment allez-vous?
Ça va bien, monsieur.
Ça va très bien. Selon vous, est-ce qu'il pourrait y avoir un terrain d'entente à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire?
Oui, bon, quand je parle des médiateurs, je faisais allusion aux organisations africaines comme l'Union africaine, UA et l'autre là, la CDAO par exemple, puisque il peut avoir un terrain si vraiment les deux parties veulent s'asseoir et discuter. Je pense qu'ils peuvent se comprendre.
Bon, vous parlez des deux parties. Les deux parties, on sait qu'elles restent, elles campent sur leur position, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la communauté internationale, selon vous, vous venez de parler de la CDAO, pourrait envisager pour débloquer cette situation?
C'est organiser, je dirais, une rencontre avec les deux parties en question et essayer de voir en tout cas comment gérer cette crise. Puisque si chacun essaie de voir de son côté, de revenir sur sa position, je me dis que ça peut aller.
Et s'il refuse de se rencontrer?
Ah là, ça serait un peu compliqué, puisque s'il n'y a pas de discussion, je crains fort qu'il n'y ait pas d'entente. Donc ça serait un peu compliqué. Je me dis qu'en tout cas, on peut avoir une issue favorable, je me dis.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la part de l'opposition qui décide de former un régime de transition?
Pour moi, en tout cas, ça va troubler encore la situation. le président, en tout cas, il est réélu, donc lui aussi il va pas céder, il va pas céder. Donc à leur niveau aussi, bon, le fait d'organiser, en tout cas, ou bien de faire une transition, vraiment un régime de transition, bon, je me dis que ça va de mal en pire, quoi. Donc ça serait un peu compliqué.
Et selon vous, est-ce que la communauté internationale elle-même pourrait proposer une sorte de transition?
Bon, si vraiment les choses ne changent pas, je me dis que bon, c'est une possibilité à envisager, puisque si les choses ne changent pas, il faut carrément revoir les deux parties, les mettre à l'écart et créer un régime qui va gérer en attendant que les choses reprennent ou bien les ressources reviennent dans l'ordre.
De quel œil voyez-vous cela, vous, au Burkina Faso, hein, les Burkinabés, de quel œil voit-il cette crise en Côte d'Ivoire quand vous en discutez entre vous?
Bon, c'est vraiment déplorable, puisque c'est toujours les mêmes choses, puisque on a vu lors de l'élection passée aussi, ça a commencé comme ça, et après, bon, ça a dégénéré, et vraiment, ça n'a pas été simple. Je me dis que ça devrait être une leçon, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais bien d'autres pays, pour tous les pays. Mais malheureusement, on tombe toujours dans le même piège, on tombe toujours dans la même situation, et c'est déplorable.
Merci beaucoup, Jacques Bamogo. Je rappelle que vous êtes au Burkina Faso. Au plaisir de vous entendre une nouvelle fois dans notre émission. À votre avis, à très bientôt.
Merci, bien, madame.
Allô, Esmaïlou, c'est la Voix de l'Amérique.
Oui, je vous entends, bonsoir.
Vous avez écrit sur notre Facebook, j'ai les larmes aux yeux, et c'est toujours ce bras de fer qui continuera, car qui doit accepter d'entendre l'autre, dites-vous, et c'est une très bonne question, Esmaïlou, on vous écoute.
J'ai commencé en disant, j'ai les larmes aux yeux, parce qu'aujourd'hui, on ne compte plus sur ces gens de personnes, nos politiciens et aussi nos hommes qui sont au pouvoir. Ils nous enseignent rien que la violence, c'est le premier cas. Eux aussi, ils sont à la page, ils sont à deux progrès africains. Parce qu'aujourd'hui, si on veut parler de l'Afrique, on a eu les héros de l'indépendance. Mais aujourd'hui, eux veulent se faire les héros de plusieurs mandats. Bon, ils ne seront pas d'accord de rester et discuter réellement ce qui va faire avancer l'Afrique et surtout la jeunesse africaine. Tout ça, là, vous allez voir que pour chercher à gagner un terrain d'entente, c'est toujours de la violence. Le bras de fer serait toujours animé parce que c'est les hommes qui sont au pouvoir et l'opposition aussi qui veut venir au pouvoir serait un obstacle. Bon, c'est des obstacles qui vont chercher à empêcher la jeunesse d'évoluer et que la jeunesse aussi sera affaiblie d'un autre côté parce qu'elle aussi se laisse mener par ses motifs politiciens.
Un grand merci, Esmaïlou, pour votre participation assidue à notre show quotidien, à votre avis. On vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt, au revoir.
À bientôt, merci beaucoup.
Falenge Touré, bonsoir, comment allez-vous? C'est la Voix de l'Amérique.
Bonsoir, je n'ai pas oublié, madame. Et c'est vous?
Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous entendre à partir du Mali, Bamako, on imagine. Alors, c'est pour parler de la crise en Côte d'Ivoire, mais vous êtes plutôt pessimiste, en effet. Toutefois, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite lueur d'espoir? À toute crise, il faut trouver une solution, n'est-ce pas?
Bon, la seule chose que je peux préconiser dans cette crise post-électorale, c'est d'aller au dialogue. La seule solution que je disais ici, c'est d'abord demander aux autorités en place d'annuler avec les résultats que la CEI a publiés. Donc ces résultats ne favorisent pas du tout la stabilité, la paix en Côte d'Ivoire pour le moment. Parce que quand nous observons et analysons les choses au fond, nous dirons que tout a été soulevé par Alassane Dramani Ouattara lui-même. Pendant que Alassane Dramani Ouattara avait choisi un dauphin comme Amadou Ben Koulibaly, paix à son âme, qui est strictement décédé. Donc, il est revenu sur sa parole pour dire qu'il vient se présenter. Et alors, au début, Alassane Dramani Ouattara devrait tout faire pour choisir encore un autre élément parmi ses clans présidentiels. Il y a Ahmed Bagayoko, il y a Assi. Bon, je pense qu'Alassane a failli sa mission, sa responsabilité de la stabilité, de la réconciliation, un type d'homme démocrate en Côte d'Ivoire. Ensuite, les deuxièmes remarques que moi j'ai fait, Alassane a commencé à soulever les tensions partout des dépôts de dossiers à la candidature. Il y a eu 45 dossiers au niveau du Conseil constitutionnel. Mais parmi les 45, ils ont exclusé les 41 au profit des trois listes lui-même pour aller à l'élection présidentielle. Donc, quand nous observons et nous disons la vérité, les potentiels candidats qui allaient concurrencer Alassane Dramane Ouattara à l'élection présidentielle sont tous inscrits à la course présidentielle. Donc, cela a une conséquence à cette poste électorale.
Un grand merci, Falingué Touré, à partir de Bamako, au Mali. On vous souhaite une très bonne soirée. On vous dit à bientôt.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi À votre avis sur VOA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous. Bon courage et à très bientôt.